Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 15 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour tous celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Des entrepreneurs qui s'engagent en politique, ce n'est pas nouveau, mais une nouvelle figure du business belge se lance dans la bataille. Quelles sont ses motivations? Vous l'entendrez. Mieux accompagner les malades de longue durée, c'est l'essence même des recommandations du dernier rapport annuel du Conseil supérieur de l'emploi. De plus en plus de personnes n'osent plus pousser les portes de leur entreprise. Que faut-il faire? Nous esquissons quelques pistes. La majorité des investisseurs belges ne voient pas les taux d'intérêt baisser jusqu'à leur niveau d'avant les crises. Ils se disent qu'ils vont vivre avec. C'est l'un des enseignements du dernier baromètre ING. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Il est l'une des figures emblématiques du paysage entrepreneurial belge. L'ancien président de l'Union Wallonne des entreprises et ex-CEO du groupe alimentaire Cosucra, Jacques Trahet se lance en politique. Sur la liste régionale d'écolo, il soutiendra la ministre Céline Tellier en Brabant Wallon. Jacques Trahet occupera la 4e place, a priori non éligible, mais avec l'ambition d'apporter sa connaissance entrepreneuriale au projet écologiste.
Je ne vise pas à avoir une carrière politique nouvelle. Je pense toujours que l'économie prend un peu trop de place dans notre société et que la politique, au sens noble du terme, devrait être un petit peu plus mise en avant et que donc les débats sur l'avenir de notre économie, etc., soient plus ouverts et soient plus consistants parce que je pense que la population est en attente.
François-Xavier Lefebvre, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Vous connaissez bien le monde politique, notamment en Wallonie, votre terrain de jeu à l'écho. Dans l'édito du jour, vous dites que des entrepreneurs qui se lancent en politique, ce n'est pas un phénomène nouveau.
Non, c'est un phénomène qui est récurrent lors de chaque campagne. On voit des entrepreneurs, aujourd'hui c'est Jacques Trahet, il y a eu Olivier de Wassège, qui se lancent en politique avec une envie sans doute de faire bouger les choses, une envie de partager son expérience, son vécu du terrain. Bon, il y a un intérêt pour les partis politiques, ça donne une certaine crédibilité à leur programme, ça permet de se montrer sur un beau jour face aux autres entrepreneurs. Donc c'est assez intéressant. Pour autant que le jeu, que ça aille jusqu'au bout, est-ce que ces entrepreneurs ne vont pas être déçus une fois qu'ils seront lancés dans la mécanique politique? Est-ce qu'ils ne vont pas servir de simple totem? Est-ce que le politique saura répondre à toutes leurs attentes? Donc voilà, ça c'est à voir après la campagne pour ceux qui seront élus.
Je vous parlais de cela dans le brief d'hier. Il y a de plus en plus de malades de longue durée en Belgique. Les personnes en incapacité de travail, autour de 500 000, sont désormais plus nombreuses que les demandeurs d'emploi. Le CSE, le Conseil supérieur de l'emploi, leur consacre donc logiquement son rapport annuel. Notre journaliste Corentin Di Prima a rencontré le vice-président du CSE, Steven Van Akere. Pour lui, il y a urgence à remettre les personnes en incapacité de travail sur le chemin de l'emploi.
Il y a vraiment urgence parce que si on constate que 460 000 personnes qui sont en âge de travailler décrochent du marché du travail à cause d'invalidité et que ce nombre n'est pas en train de diminuer. Si on combine cela avec les pénuries qui sont présentes aujourd'hui dans le marché du travail, il est clair qu'il y a un manque à gagner pour la société qui est énorme et qui va encore au-delà de la réalité, bien sûr, aussi que ces personnes eux-mêmes seraient quand même mieux loties si ils peuvent retrouver les chances de participer au marché du travail.
Globalement, ce sont les problèmes de santé mentale comme le burn-out qui sont les plus fréquents devant les troubles musculo-squelettiques et d'autres maladies. Le rapport note que les 6 premiers mois sont cruciaux pour envisager un retour au travail, car par la suite, la probabilité de sortir de l'incapacité diminue fortement. L'employeur doit donc accompagner les employés à l'arrêt dès les premières semaines. Ainsi, le Conseil supérieur de l'emploi formule plusieurs recommandations concrètes comme celle de responsabiliser les entreprises en les touchant au portefeuille avec une allocation versée chaque mois par l'employeur aux travailleurs en incapacité dès lors que la mutuelle prend le relais. D'ailleurs, incapacité, Steven Van Akere n'aime pas vraiment ce mot.
Il n'y a personne qui n'a plus de capacité. Tout le monde a quelques capacités. Le tout, c'est d'exploiter ces possibilités, ces chances, pour augmenter les chances de participer au travail. Et je continue à dire que prétendre que travailler, c'est quelque chose qui est une menace pour la santé, c'est quelque chose de tout à fait illogique, car être dans un environnement où le travail est valorisant est quelque chose qui aide à la santé. Et je crois qu'il faut insister un peu sur cette mentalité. Les employeurs ont tout intérêt aujourd'hui de retrouver des possibilités pour les personnes qui malheureusement sont confrontées avec une maladie temporaire et de les remobiliser.
Finalement, le rapport du CSE préconise surtout de mettre davantage l'accent sur la prévention et la réintégration. À cet égard, les employeurs ont clairement un rôle à jouer. Des actes graves se sont déroulés dans l'armée belge. Des faits dégradants et humiliants au sein d'un bataillon qui ont été dénoncés dans un mail par la famille de l'une des victimes. La ministre de la Défense, Ludivine de Donder, a donc décidé de dissoudre le groupe concerné qui fait partie du 4e bataillon d'Eugénie Damay.
Parmi les personnes impliquées se trouvent des officiers, des sous-officiers, des volontaires, des soldats expérimentés et des soldats moins expérimentés. Je tiens à préciser d'emblée que ce n'est pas l'ensemble du personnel du 4e bataillon Génie qui est impliqué dans cette affaire, mais qu'il s'agit de quelques dizaines de personnes et pour lesquelles il y a un problème structurel évident. Sur la base des informations dont nous disposons aujourd'hui, un peloton du 4e bataillon du Génie est dissous. Il s'agit d'une mesure sévère par laquelle l'inspecteur général, le chef de la défense et moi-même voulons envoyer un signal fort. Ce qui s'est passé est inacceptable et de tels comportements seront toujours suivis de mesures fermes et drastiques.
Ainsi, l'enquête suit son cours, mais on parle d'ores et déjà de faits de maltraitance, coups et blessures infligés par des soldats à leurs condisciples lors de bizutages et de formations. Des pratiques qui existaient depuis au moins 3 ans au sein du peloton, chantage, menaces et obligations de silence ont été imposées aux victimes. Des victimes qui devenaient parfois elles-mêmes des bourreaux, ce qui rend l'affaire d'autant plus délicate. D'autres mesures pourraient être mises en place. 14 suspects font l'objet d'une information judiciaire. Sur la côte belge, l'immobilier ne connaît pas la crise. L'année dernière, les achats de logements y ont été plus rares qu'ailleurs. Pourtant, les prix affichent une belle hausse de 7% pour les appartements. Mais attention, il y a une grande disparité selon les communes, nous apprend le dernier baromètre des notaires. Prenez par exemple un appartement à West End, il vous coûtera un peu plus de 170 000 euros en moyenne, contre 770 000 euros pour un appartement à Knokke. Knokke, c'est justement la commune côtière la plus chère de Belgique, et c'est là où les prix ont le plus augmenté, plus 20% par rapport à 2022. Derrière elle, sur le podium, il y a Ostende et Coxyde. Une poignée de communes ont vu quand même leurs prix diminuer. C'est le cas de Lecoq qui a subi la plus forte baisse de moins 11%. Enfin, sachez qu'une vue sur mer est de plus en plus chère. L'écart de prix entre la digue et l'intérieur des terres continue de se creuser. Et s'il y a bien une chose qui joue sur les prix de l'immobilier, ce sont évidemment les taux d'intérêt. La plupart des investisseurs belges pensent qu'ils resteront élevés à l'avenir, et ce malgré la perspective d'une baisse prochaine des taux directeurs en zone euro. Le dernier baromètre d'ING nous indique également que plus des 2/3 des investisseurs belges estiment que le niveau normal des taux belges à 10 ans est d'au moins 3%, ce qui est supérieur au niveau actuel de 2,8%. Alors comment expliquer cette conviction des investisseurs belges de voir les taux rester bien plus hauts qu'auparavant? Réponse du chef économiste d'ING Belgique, Peter van den Hout.
Si on parle des taux longs, évidemment, les gens regardent surtout sur l'actualité récente. Et donc là, on a vu une forte hausse après qu'on a connu même il y a quelques années des taux négatifs. En plus, il faut savoir aussi que 60% des investisseurs belges pensent que l'inflation restera supérieur à 3% d'ici la fin de l'année. Et en quelque sorte, ça pourrait aussi expliquer pourquoi elle pense que les taux longs vont rester plus élevés aussi.
Et sur les rendements boursiers, les investisseurs belges semblent aussi plus pessimistes qu'avant.
Donc, il est vrai que près de 60% des investisseurs pensent que le rendement annuel sur un investissement en bourse rapportera moins que 5% dans les 10 ans qui viennent. Et c'est quand même assez bas si on observe que sur les 20 dernières années, le rendement moyen en Europe était autour de 7%, au niveau mondial, même 8,5%. Donc là, les Belges peut-être sous-estiment le potentiel d'un investissement en bourse, sauf les jeunes. Là, on voit que pas moins que 35% pensent que les rendements boursiers vont être supérieurs à 10%, ce qui est peut-être un peu optimiste.
Le processus est lancé. La bourse de Zurich va accueillir la semaine prochaine l'une des plus grosses introductions en bourse de l'année. Le laboratoire helvétique Galderma espère lever 2,3 milliards de francs suisses. C'est la plus grosse IPO européenne depuis celle de Porsche en septembre 2022. Si Galderma ne vous dit rien, laissez-moi vous présenter l'entreprise. Elle a été fondée en 1981. C'est une ancienne filiale du géant Nestlé spécialisée en dermatologie et elle a été rachetée par la société d'investissement suédoise Equity en 2019. Galderma est présente dans près de 90 pays et emploie actuellement 6500 personnes. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires record l'année dernière de 4 milliards de dollars en hausse de 8,5% sur un an. Galderma est notamment connue pour sa marque Cetaphil qui commercialise des soins pour les peaux sensibles. Et tant qu'on est sur les marchés, voyons comment Wall Street a performé hier soir. La bourse de New York a terminé en baisse, plombée par un indice des prix de gros américains confirmant une inflation tenace. Ce matin, la bourse de Tokyo a ouvert dans le rouge, dans l'attente de résultats préliminaires des négociations salariales annuelles au Japon. Une mascarade, voilà le terme employé par l'ancien espion du KGB, Sergueï Jirnov, pour définir l'élection présidentielle en Russie. Elle a débuté aujourd'hui et pour 3 jours, et le résultat est couru d'avance. Depuis plus de 20 ans, Vladimir Poutine, tel un tsar, incarne le pouvoir en Russie, et rien ne semble l'arrêter. Le président ne semble pas prêt à abandonner son trône. Tous les opposants crédibles ont été éliminés et le maître du Kremlin s'apprête donc à rempiler pour un nouveau mandat de 6 ans. Du haut de ses 71 ans, Vladimir Poutine est adulé par les uns, craint par les autres, mais pour de nombreux observateurs, cette popularité est un leurre. Le président a besoin d'une participation massive pour valider sa présence au pouvoir. Les médias russes mettent donc les bouchées doubles. Un clip de campagne va même jusqu'à menacer les abstentionnistes d'un retrait de leurs avantages sociaux. Dans certaines localités, on annonce l'organisation d'une loterie dans les bureaux de vote où l'on pourra gagner des appareils ménagers. Dans d'autres, on promet carrément que la vodka coulera à flot. Il paraît que c'est une tradition soviétique. C'est la fin de ce brief, merci de l'avoir suivi. On dit nous RS, c'était à la préparation. Lundi, c'est Laurent Fabry que vous retrouverez avec Jean-Marc Van Dorn comme invité. Il est CEO de BioBest, l'un des deux gagnants du concours Changemakers organisé par L'Echo et Deutaid pour récompenser les entreprises qui font la différence en termes de durabilité. Très bon week-end et à bientôt.